La première étape est de considérer les problèmes, d'engager le dialogue avec les personnes concernées. Le réseau de groupes Association des astronautes autonomes est le reflet de cette étape. N'importe qui ici peut y contribuer. Nous avons été conditionnés par les médias depuis 60 ans pour placer nos espoirs et nos aspirations dans l'espace, mais seule l'Association des astronautes autonomes a pris ce défi au sérieux. En tant qu'individus, nous sommes isolés, atomisés. Mais si nous pouvons nous rassembler et mettre en commun nos idées et nos talents, alors le voyage spatial en communauté de base ne deviendra pas seulement une possibilité, mais une nécessité. Nous avons été dupés, escroqués, en laissant les gouvernements et les armées aller dans l'espace à nos places. Occasionnellement, ils nous font miroiter quelques friandises, comme la vie sur Mars ou de la glace sur la Lune. Mais rien ne change véritablement. Il doit être bien clair que leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Maintenant, il est temps pour chacun, pour tous ici, de le faire pour soi-même et pour tous les autres. Chaque homme et chaque femme est un astronaute autonome.
Sur Mars, le guide du touriste spatial. Premier chapitre, votre voyage vers la planète rouge. Un voyage sur Mars est bien différent d'un voyage vers la Lune. Dans le cas d'une trajectoire de Hohmann de type 1, le vaisseau dépasse déjà l'orbite de la Lune 12 heures après le départ. La Terre reste en vue tout au long du voyage, mais elle est lointaine. Elle apparaît sous la forme d'un croissant. À 2 mois de l'arrivée sur Mars, elle ne devient plus qu'un point brillant dans le ciel, un peu comme les Vénus vues de la Terre. Pour les voyageurs, cet éloignement va se manifester par un allongement progressif de la durée des transmissions, qui atteint 6 minutes à la fin du voyage. Le voyage Terre-Mars, durant des mois, pose plusieurs problèmes. Le vaisseau doit être blindé contre les radiations cosmiques nocives pour les voyageurs. Il doit ensuite être conçu pour recycler les déchets. En outre, le retour d'urgence est impossible. Tous les passagers auront subi une appendicectomie avant le départ. Au long du voyage, l'organisme doit être entretenu. Exercice physique et diététique particulière sont nécessaires en apesanteur, voire, si possible, une gravité artificielle obtenue par rotation du vaisseau sur lui-même. Enfin, comment supporter les autres passagers dans un tel confinement ? Les membres de l'équipage seront sévèrement sélectionnés à partir de l'expérience acquise sur la psychologie d'un groupe enfermé dans un sous-marin, une grotte, une station orbitale, etc. Sur Mars, il règne un froid polaire et l'on ne peut pas respirer librement. Le rayonnement ultraviolet du Soleil, 600 fois plus intense que sur la Terre, est cancérigène. La poussière de Mars s'infiltre partout. Or, elle est chargée de peroxyde, agent hyperoxydant, qui endommage les circuits. Ce confinement est aggravé par la lenteur des communications. De 6 minutes au moment de l'arrivée, la durée des communications, aller-retour, pour dire, atteint 44 minutes au maximum de la distance entre la Terre et Mars. Deuxième chapitre, votre scaphandre. Enfiler un scaphandre n'est pas une mince affaire. Bien sûr, vous êtes exercé sur la Terre et vos compagnons vous aideront. Mais il faut plus d'une heure pour les revêtir et passer en revue la checklist. Un oubli peut avoir des conséquences fatales. Rappel. Vous mettez la combinaison par-dessus la tenue chaude que vous portez à l'intérieur de la base ou des 4x4. Vous enfilez ensuite votre gros sac à dos qui contient les appareils respiratoires et le système de survie, réserve d'eau, système d'aération, etc. Votre casque, sorte de bocal à poisson rouge, permet une vision à 180 degrés. Il se visse sur le collier relié à la partie supérieure de votre combinaison. Testez les écouteurs et les microphones fixés sur le bonnet qui vous couvre la tête. Ils sont bien entendu connectés à la radio attachée à votre ceinture. Comme tout martien, vous avez une belle antenne droite qui dépasse de votre tête. C'est l'antenne radio. Vous portez des bottes épaisses, mais pas autant que celles que les astronautes portent sur la Lune. Et des gants, bien entendu, qui gênent malheureusement votre toucher. La combinaison limite vos mouvements, mais son poids ne vous posera pas de problème dans le contexte martien, où vous pesez 3 fois moins que sur la Terre.
Enfin, des bonnes nouvelles. Le voyageur spatial est confronté à un problème presque insurmontable. Que le motif de son voyage soit scientifique, militaire ou touristique, il espère généralement être capable de survivre. On ne saurait le lui reprocher. Pour survivre, et peut-être même pour vivre, l'humain, l'être vivant qu'il est, doit impérativement emporter avec lui un échantillon de son environnement qui est fait d'air, d'eau, de nourriture, d'une certaine pression et d'une certaine température. Qu'on en valorise ou non les limitations, le corps reste limité, désespérément limité. Ce corps est généralement considéré comme un ensemble d'organes et de fonctions biologiques dépendant d'un contexte assez précis. On peut le modifier ou l'améliorer en lui ajoutant un certain nombre de prothèses qui sont alors considérées selon leurs effets quantitatifs. Permettre de respirer plus longtemps, de courir plus vite ou de supporter certaines privations. On peut alors considérer ces prothèses sous l'angle de leur prix, de leur poids, de leur nombre et de leur accessibilité. Ce problème préoccupe les ingénieurs depuis le début des vols spatiaux habités. Que faut-il emporter et surtout à quel prix ? L'arrachement à la Terre, quitter la gravité pour, par exemple, aller s'établir sur la Station Spatiale Internationale, par exemple. Cela exige une énergie considérable et cette énergie a un coût tout aussi considérable. Chacun d'entre nous, voyageurs spatiaux, au moins en puissance, pèse plusieurs tonnes. Encapsuler les conditions élémentaires de la vie et les projeter à des milliers de kilomètres laisse les terriens songeurs quant aux conditions de leur propre survie. Vous vous souvenez peut-être de l'intervention de Philippe dans la séance du mois de janvier. Le mot « cyborg » est inventé précisément dans cet horizon problématique. Il constitue un vrai changement de paradigme. Pourquoi insérer l'humain dans une coquille fragile et nécessitant des soins constants, un vaisseau spatial ou une combinaison spatiale par exemple ? Pourquoi essayer d'adapter l'environnement à l'humain alors qu'on pourrait faire l'inverse ? Pourquoi ne pas intégrer dans le corps les systèmes électroniques et biotechnologiques nécessaires à sa survie ? Cybernétique, organisme, cyborg. Bien avant les innombrables œuvres de science-fiction qui en feront un être effrayant et souvent un peu hargneux, le cyborg est donc pensé comme une réponse à la grande découverte métaphysique que représente l'extraction, même provisoire, à la Terre. L'autonomie n'y est qu'un lointain souvenir. Celui d'une vie que l'on pouvait croire pilotée par la seule volonté souveraine. Celui d'une vie qui se fixe à elle-même ses propres buts et choisit soigneusement les moyens de les atteindre. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'espace. Plus terrifiant encore, le mot « autonomie », comme nous en faisons toutes et tous l'expérience quotidienne, est de plus en plus utilisé pour désigner une réserve d'énergie dont on surveille la jauge avec inquiétude avant d'aller recharger ses batteries. La proposition cyborg, si on l'assume comme ce que Donna Haraway appellerait peut-être une fabulation, c'est-à-dire une spéculation sur la modification des données de l'existence, cette proposition est une tentative de casser la relation forte entre la planète, ou ses substituts, et la vie humaine. Plus encore, il s'agit, selon les inventeurs du mot, les ingénieurs Manfred Klein et Nathan Klein, de ne pas réduire l'homme à un esclave de la machine, ce sont leurs mots, même si cette machine a pour fonction de garantir la survie de l'homme. Ne pas réduire l'homme à un pilote obnubilé par la fragilité de son vaisseau, slalomant entre les astéroïdes et les satellites. Le mot cyborg est donc une spéculation sur l'autonomie dans un environnement non seulement dégradé, mais pour ainsi dire réduit à sa plus simple expression, ce qu'il y a autour, ici, le vide, ou presque. En décontractant l'attention permanente, anxieuse et si contraignante aux objets techniques à laquelle est suspendue la survie dans l'espace infini, le cyborg propose une relation aux prothèses qui se veut sélective, incorporée et largement automatisée. Déplaçant la focale du quantitatif au qualitatif. Mais surtout, ça ne vous a peut-être pas échappé, le cyborg explicite la contradiction fondamentale sous-tendant notre rapport aux techniques, mélange de conscient et d'inconscient, de choix raisonnés et d'automatisme. Penser le cyborg a principalement pour effet de redistribuer les cartes entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe, en termes de relation avec les objets techniques. Dans un contexte d'une hostilité sidérale, la relation avec la technique s'impose comme non seulement constitutive, mais aussi d'une urgence vitale. Pour reprendre et déplacer un peu l'expression de Konstantin Tsiolkovsky, l'un des pères de l'astronautique russe comme cet animal, lorsque le berceau de la vie est réduit à un paysage que l'on contemple derrière une vitre blindée, la vie hors du berceau, la vie de l'âge adulte et de l'autonomie semble rester bien hasardeuse. Encore un effort. Revenons sur Terre. Les parachutes refusent de s'ouvrir, l'océan approche à grande vitesse. Tout éveillé, nous rêvons d'un corps conçu comme l'addition de ses fonctions biologiques, ajoutées de prothèses, de vêtements, d'outils, de drogues et d'armes, amassées au fil de nos conquêtes et de notre way of life. Nous frémissons. Ce corps-là, ce corps quantitatif et mesuré, se débat dans un berceau dont la température augmente dangereusement, secoué par des tempêtes d'une violence inédite. Après des décennies de projets, de rêves, d'imaginaires tournés vers la conquête de l'espace, même un petit bout, même un petit caillou précieux, voilà que la Terre résiste et colle, maudite gravité. Mais, en plus, on découvre que ce monde que l'on aimait croire infini est lui aussi un pauvre petit caillou perdu dans l'espace, un caillou qui souffre et qui se fendit sous le poids de ses habitants humains. Ce que l'on croyait vrai clignote au loin dans un immense inconnu, maigre butin métaphysique. Le piège se referme. Alors que l'humain a cherché à adapter son environnement à ses désirs et besoins, voilà que tout à coup il devrait s'adapter à lui sous la pression de contraintes écologiques inédites et menaçantes. Pire, c'est lui, cet être humain, si fragile, qui a lui-même largement provoqué ces contraintes écologiques dont il est la proie paniquée, à tel point qu'on parle de lui comme de la principale force géologique d'une époque qui a déjà trouvé son nom, à défaut de la caution officielle des stratigraphes, l'Anthropocène, avec un A majuscule, s'il vous plaît. Limité ou libéré, empêtré sur la Terre ou expulsé dans l'univers infini, partout cet humain, bien encombrant, il faut le dire. Alors doit-on s'en réjouir ? Doit-on le considérer comme un animal, comme un autre, enfin ramené à la modestie de sa condition et rappelé à l'ordre quant à ses rêves de grandeur ? Ça serait un peu trop simple, un peu trop facile, et en même temps tellement compliqué. Par où commencer ? Quel est cet homme, avec un grand A, dont on parle, et de quoi serait constitutif sa relation avec la technique, avec un grand hic ? Allô ? Allô ? Je vous vois, moi, je ne vois plus très bien, je vais répéter. Ne pourrait-on pas fabuler d'autres possibles ? Pluraliser ces gros singuliers pâteux ? L'ironie veut que ce que j'essaie d'esquisser là, la fin joyeuse de l'idée d'autonomie, nous vient précisément de certaines pensées de l'émancipation. Les féministes américaines nous ont appris l'importance des idées que nous utilisons pour penser d'autres idées. Ce que nous mettons dans notre baluchon, notre sac à dos, esquisse la destination et l'itinéraire, mais ne le détermine pas complètement. Pour résister aux grandes catégories, avec un gorille majuscule, pour leur opposer d'autres possibles, il est nécessaire d'accorder plus de soins et d'attention aux différents modes de penser et de sentir. Expérimenter, multiplier les perspectives et les zones de contact, ne pas savoir à l'avance ce qui fera relation, de quel couplage, de quels assemblages le cyborg sera le résultat. Fabuler le voyage spatial ou le prévoir dans ses moindres détails n'adresse pas l'inconnu des espaces infinis, mais concerne ce qui nous est le plus familier, le plus implicite et donc le plus inconnu. À commencer par le fait que nous ne savons jamais vraiment qui est ce « nous », mais qu'il est sans cesse à remettre en jeu, à pluraliser et à reconfigurer. Ensuite, que la relation subtile avec la technique ne peut pas être laissée à des généralisations hasardeuses, ne doit pas être abandonnée au pauvre fantasme du quantitatif, mais doit au contraire être choisie, affinée, pluralisée, variée. L'autonomie n'existe pas, nous sommes fondamentalement des étrangers à nous-mêmes, nos perceptions, nos attachements et nos imaginaires ne nous appartiennent pas. Débarrassés de la première, construisons des mondes avec les secondes, des mondes infinis. Le compte à rebours est terminé.
Troisième chapitre, votre véhicule pour vous déplacer sur Mars. La plupart du temps, vous demeurez à l'abri des grands véhicules pressurisés tout-terrain de type 4x4. On peut comparer ces véhicules aux engins utilisés pour se déplacer dans le Grand Nord. Aussi larges que des autobus, ils sont juchés au sommet de roues motrices de plus de 2 mètres de haut. Les habitacles de ces véhicules peuvent être disposés sur un ou deux étages. De grandes baies sur les côtés et sur le toit permettent d'admirer le paysage et le ciel. À l'intérieur, le visiteur trouve un confort minimal, cuisine, douche, toilette. Les déplacements s'effectuent toujours en caravane d'au moins 3x4x4. Il est en effet impensable de courir le risque de voir son véhicule s'enliser ou de se retrouver coincé à mi-pente sur une dune. Quatrième chapitre, votre ballon d'exploration de Mars. L'un des procédés les plus simples pour déployer un ballon sur Mars consiste à injecter du méthanol en alcool très volatile dans une enveloppe noire. Plié, le ballon prend peu de place et peut être facilement transporté. Déplié, il se gonfle à la chaleur du soleil qui transforme le méthanol en gaz. Une promenade en ballon au-dessus du canyon Menas Casma dévoilera les étonnants reliefs de cette région centrale de Valles Marineris sur des dizaines de kilomètres. Pour ne pas être tributaire des vents, le ballon sera propulsé à l'aide d'hélices qui tireront leur énergie de panneaux solaires. Attention à revenir avant la tombée du jour, au moment où l'enveloppe de l'engin se dégonflera.
Voilà, Gabriel nous a parlé d'autonomie, moi j'aimerais parler d'attachement. Que faisons-nous de nos attachements ? Devons-nous les cultiver avec ferveur pour nous identifier à eux ? Est-ce qu'ils constituent notre unique richesse à travers les multiples rapports qu'ils instaurent ? Est-ce qu'un attachement représente nécessairement un lien positif ? Ou faut-il au contraire soupçonner que tout attachement renferme un piège ? Un piège qui nous ferme en nous identifiant, qui nous a peur en nous dressant les uns contre les autres. Faut-il alors chercher un lien plus léger, plus souple et délié, moins attaché ? Et que dire ici de notre attachement le plus radical, celui qui nous lie à la terre, et je n'ose pas dire à la terre-mère ? À ce sujet, j'aimerais vous lire ici un court extrait d'un texte que j'aime beaucoup. Ceux qui sont attentifs et qui suivent toutes nos saisons l'auront déjà entendu un petit bout il y a 4 ans. Bon, bref. Un texte de Lévinas que j'aime beaucoup qui s'appelle Heidegger, Gagarine et nous. Un texte que Lévinas a écrit à l'occasion de la première sortie d'un homme dans l'espace, donc Yuri Gagarin. Je vous lis quelques petits extraits. Les ennemis de la société industrielle sont la plupart du temps réactionnaires. Ils oublient ou détestent les grands espoirs de notre époque, car jamais la foi en la libération de l'homme n'était plus forte dans les âmes. Elle ne tient pas aux facilités que les machines et les sources nouvelles d'énergie offrent à l'enfantin instinct de la vitesse. Elle ne tient pas aux beaux jouets mécaniques qui tentent la puérilité éternelle des adultes. Elle ne fait qu'un avec l'ébranlement des civilisations sédentaires, avec l'effritement des lourdes épaisseurs du passé, avec le pâlissement des couleurs locales, avec les fissures qui lézardent toutes ces choses encombrantes et obtuses auxquelles s'adossent les particularismes humains. Il faut être sous-développé pour les revendiquer comme raison d'être et lutter en leur nom pour une place dans le monde moderne. Le développement de la technique n'est pas la cause, il est déjà l'effet de cet allègement de la substance humaine, se vidant de ses nocturnes pesanteurs. Il intervient une charge contre Heidegger derrière. J'ai supprimé la référence à Heidegger. On voudrait que l'homme retrouve le monde. Les hommes auraient perdu le monde. Ils ne connaîtraient plus que la matière dressée devant eux, objectée en quelque façon à leur liberté. Ils ne connaîtraient que des objets. Retrouver le monde, c'est retrouver une enfance pelotonnée mystérieusement dans le lieu. S'ouvrir à la lumière des grands paysages, à la fascination de la nature, au majestueux grimpement des montagnes. C'est courir un sentier qui serpente à travers champs. C'est sentir l'unité qu'instaure le pont reliant les berges de la rivière et l'architecture des bâtiments. La présence de l'arbre, le clair-obscur des forêts, le mystère des choses, l'éclat d'une carafe de vin posée sur une nappe blanche. L'être même du réel se manifesterait de derrière ces expériences privilégiées, se donnant et se confiant à la garde de l'homme. Et l'homme, gardien de l'être, tirerait de cette grâce son existence et sa vérité. La voilà donc, l'éternelle séduction du paganisme. Par-delà l'infantilisme de l'idolâtrie depuis longtemps surmontée, le mystère des choses est la source de toute cruauté à l'égard des hommes. L'implantation dans un paysage, l'attachement au lieu, c'est la scission même de l'humanité en autochtone et en étranger. Et dans cette perspective, la technique est moins dangereuse que les génies du lieu. La technique supprime le privilège de cet enracinement et de l'exil qui s'y réfère. Elle a franchi de cette alternative. Il ne s'agit pas de revenir au nomadisme, aussi incapable que l'existence sédentaire de sortir d'un paysage et d'un climat. La technique nous arrache au monde heideggerien et aux superstitions du lieu. Dès lors, une chance apparaît, apercevoir les hommes en dehors de la situation où ils sont campés. Laisser luire le visage humain dans sa nudité. Socrate préférait à la campagne et aux arbres la ville où l'on rencontre les hommes. Le judaïsme est frère du message socratique. Ce qui est admirable dans l'exploit de Gagarine, ce n'est certes pas son magnifique numéro de Luna Park qui impressionne les foules. Ce n'est pas la performance sportive accomplie en allant plus loin que les autres, en battant tous les records de hauteur et de vitesse. Ce qui compte davantage, c'est l'ouverture probable sur de nouvelles connaissances et de nouvelles possibilités techniques. C'est le courage et les vertus personnelles de Gagarine. C'est la science qui a rendu possible l'exploit et tout ce que, à son tour, cela suppose d'esprit, d'abnégation et de sacrifice. Mais ce qui compte peut-être par-dessus tout, c'est d'avoir quitté le lieu. Pour une heure, un homme a existé en dehors de tout horizon. Tout était ciel autour de lui, ou, plus exactement, tout était espace géométrique. Un homme existait dans l'absolu de l'espace homogène. Fin de citation. Alors, je crois qu'on comprend assez bien le sens de l'argumentation de Levinas. La technique nous libère de nos attachements. Elle nous libère surtout de tout ancrage territorial qui nous oppose à l'autre homme. Un ancrage qui nous fait dire « je suis d'ici et toi tu es de là-bas ». Première identification, première fermeture, première injustice, qui s'accompagne ensuite d'une série d'autres. Identification à notre langue, à nos usages, à nos codes culturels, etc. La technique travaille à alléger notre expérience quotidienne, à ouvrir nos corps sur de nouveaux branchements plus souples, à accroître nos possibilités. En ce sens, les objets techniques ne font pas que nous détacher pour nous projeter dans une pure abstraction vide. Ils nous rapprochent aussi du monde et rendent notre attention et nos gestes plus fins, plus sensibles. Ils multiplient notre capacité à recevoir des expériences, des impulsions diversifiées. Ils nous redonnent de l'attachement en somme, mais sous une autre forme plus déliée, plus médiatisée, comme quand on revient au pays après un long séjour à l'étranger, plus riche de ce qu'on a pu voir ailleurs et plus étonné de ce qu'on ne regardait même plus avant d'être parti. J'aimerais néanmoins insister maintenant sur un autre aspect de la technique ou des objets techniques qui me paraît nettement plus problématique. Pour faire un peu le penchant ou le pendant plutôt dialectique, Levinas parle de numéro de Bonaparte à propos de l'exploit de Gagarine, et il y a en effet quelque chose de spectaculaire, je crois que c'est ça qui m'importe, de spectaculaire dans tout objet fabriqué, que ce soit une bagnole, un iPhone ou un vaisseau spatial. Spectaculaire ne veut pas dire ici pour moi nécessairement faux ou superficiel, mais plutôt attracteur, attirant, c'est-à-dire captivant notre attention d'une certaine manière pour la détourner d'une autre, concentrant en lui toute une fascination qui se trouve bel et bien provoquée au détriment de toute autre considération. Pour décrire ce mécanisme, je crois qu'il n'y a pas mieux que le vieux terme de fétichisme que Marx applique à la marchandise. Et puis la résonance psychanalytique du terme convient bien également, souvent. Tout objet technique est un fétiche, magnétiseur d'énergie et d'attention, au détriment de ce qui se trouve par là même laissé dans l'ombre. Je prends un exemple, évidemment je ne vais pas toucher le vrai, donc je prends un faux. Hein, ce bel iPhone, c'est faux. Ah, tu crois que j'ose le toucher, mais je suis tellement maladroit qu'il va. Si je prends ce bel iPhone, hein, alors il brille, il est attirant, son design est particulièrement soigné. Je me souviens toujours la fois où Gabriel m'avait écrit le design de l'iPhone avec les yeux brillants. Effectivement, c'est un bel objet. Et par ailleurs, il nous entraîne, cet objet, l'iPhone, dans un univers d'images, hein, tout un univers d'images et de fantasmagories délicieuses, allant jusqu'à nous géolocaliser via un satellite. Pourtant, il cache en son sein certains matériaux rares qui sont obtenus d'une part au prix d'une empreinte écologique très lourde pour l'environnement et d'autre part au prix de l'exploitation bien réelle de travailleurs sous-payés. Alors je ne dis pas du tout que cet iPhone participe activement, évidemment, participe activement à toute cette exploitation, ni bien évidemment que de méchants capitalistes nous manipulent tout exprès en nous vendant cet appareil à seule fin d'exploiter la planète. Par ailleurs, on peut tout aussi bien dire que cette exploitation peut précisément être relayée et dénoncée via les réseaux d'information véhiculés par un tel objet. Pourtant, il n'en demeure pas moins qu'une certaine force fétichisée réside dans cet iPhone. Une force fétiche qui tend à nous faire oublier cet arrière-fond, du moins à passer trop légèrement par-dessus, encore et encore. Peut-être parce que nous restons tout au fond de nous des enfants cruels fascinés par nos poupées et nos jouets, dans lesquels nous avons projeté nos attachements, inconscients de toute l'agressivité retenue et détournée qu'ils impliquent. En somme, et pour conclure, je dirais que nous cherchons à nous détacher de la Terre pour nous envoyer en l'air dans de magnifiques vaisseaux brillants, mais ce faisant, nous ne faisons peut-être qu'emporter avec nous nos attachements sous forme de gros fétiches dont nous refoulons la charge sacrée. Merci.
Anthologie de l'Association des astronautes autonomes, deuxième. Sans la gravité, il ne peut y avoir un dessous et un dessus. Et donc non plus de droite et de gauche, de vrai et de faux. Libéré de l'esclavage gravitationnel, l'homme chevauchera la dialectique élémentaire du vrai-faux imposée par les processus de contrôle et par les dispositifs de sécurité. Il échappera à l'hégémonie symbolique, à l'industrie culturelle de l'entretien, au cercle vicieux du travail forcé et salarié et au consumérisme imposé, en échappant à la réalité de la vie de tous les jours, réalité entre guillemets, aux mornes pleines de la logique binaire et du monde tridimensionnel. Les possibilités se développeront de manière vertigineuse. L'Association des astronautes autonomes entend subvertir la science des constantes fixes et des lois absolues par une science des solutions imaginaires et une science de l'absurde.
Cinquième et dernier chapitre, votre hôtel sur Mars. Inutile de dire que les premiers visiteurs de Mars ne seront pas accueillis sous Houghton. La base martienne est installée au nord de Valles Marineris, dans Lunae Planum, près de l'équateur. Le choix du site ne s'est pas fait au hasard. Cette région est la plus chaude de Mars, chaude entre, pas, entre guillemets, entre moins 50 et 0 degrés, rarement 10 degrés les jours de canicule. Et c'est là que votre vaisseau spatial s'est posé. La base ressemble à un gros bidon, vous avez pu voir derrière moi il y a peu de temps, un cylindre de 8 mètres de diamètre sur 6 mètres de haut. Elle comprend deux étages et offre un espace habitable de 100 mètres carrés. La pièce où se trouve le sas principal est consacrée à la préparation des sorties. Y sont entreposées les combinaisons spatiales. Le reste du rez-de-chaussée est occupé par une grande pièce où est stocké le matériel à emporter lors des expéditions. Il reste juste assez de place pour une minuscule salle de bain et des toilettes. La NASA a estimé qu'il fallait 36 litres d'eau par jour et par personne, mais les expériences de simulation conduites par la Mars Society ont montré que l'on pouvait se contenter de 15 litres. Bonne nouvelle. Au premier étage se trouve une salle réservée aux ordinateurs et aux moyens de communication avec la Terre. Cette pièce sert aussi de salle à manger et de salle de réunion pour préparer les randonnées. Une cuisine, que vous avez aussi vue tout à l'heure, occupe une petite partie de l'espace. Le reste de l'étage est occupé par les chambres à coucher. Même si vous êtes des touristes particulièrement privilégiés, les nécessités imposent un régime spartiate. Au début de votre séjour, un emploi du temps est déterminé avec partage des tâches essentielles comme la préparation du repas et le ménage.
Un site internet de la NASA sur la colonisation spatiale déclare « Les pionniers d'abord, les multitudes de gens ordinaires après ». En réponse à cela, l'Association des astronautes autonomes est une idée très simple, le voyage spatial pour tous. Alors que l'Association des astronautes autonomes se développe comme réseau mondial, les effets de cette idée sont devenus de plus en plus complexes. Nous pouvons désormais établir avec confiance que l'AAA, vous avez compris, s'est développée dans une multitude de directions qui inspireront les générations futures. Une de ces directions est la spéculation en cours sur les formes que prendront nos communautés spatiales. De telles spéculations sont fondées sur nos activités ici sur Terre, mais ne sont pas des modèles devant être imposés à d'autres. Ils existent en tant que suggestions, tout comme nos explorations du sexe en gravité zéro et nos propositions pour des rêves dans l'espace. Ces activités sont des prototypes pour la vie dans l'espace. Ce sont des tendances vers la subversion, la coopération et une vie pleine de joie.
Épilogue. Provisoire, retour sur Terre. Alors qu'émerge avec le terme, anthropocène, une humanité conçue comme une force géologique, se profile à l'horizon, pour reprendre une belle expression d'Emile Hache, une sorte de retour sur Terre, avec un ton dramatique. Face aux rêves et aux utopies de la conquête spatiale, le terme anthropocène semble sonner le glas de l'univers infini de la conquête spatiale. Nous n'avons pas de planète B. C'est d'ailleurs l'astronautique qui inaugure en partie cette mutation anthropologique du regard, celle de la Terre photographiée par la mission Apollo 8 le 29 décembre 1968, photo qui est passée également derrière moi tout à l'heure. La photographie laisse deviner la mince pellicule atmosphérique à la surface de notre planète et matérialise le sentiment de fragilité qui nous saisit à la contemplation de cette petite sphère bleue. Cette image et ses dérivés, devenue une véritable icône culturelle, considérée parmi les 100 photos les plus importantes de la culture contemporaine par le Times à l'époque, incarne la naissance d'une conscience planétaire, d'une sorte de nouvel universalisme que Franklin, Lurie et Stassi, trois anthropologues anglaises, ont proposé de nommer pan-humanité. Il se caractérise notamment par un mélange ambivalent de fierté et de crainte. Fierté pour les réalisations rendues possibles par la technologie et crainte des risques qui y sont associés. Malgré l'énorme impact de ces images, cependant, comme le fait remarquer Bruno Latour, ce n'est qu'avec la montée en puissance de la question climatique, avec les scénarios du GIEC sans cesse raffinés, que la Terre est devenue enfin ronde. Auparavant, elle n'était pas vraiment ronde. Ni les géosciences, ni l'astronomie, ni l'imagerie satellite ne suffisent en effet à nous faire éprouver cette clôture, ce sentiment de fermeture, ce fait qui semble pourtant évident, nous sommes les habitants d'une même sphère, dans un univers inhospitalier. Commentant le travail de Peter Sloterdijk, Latour affirme que cette rotondité ne devient véritablement concrète pour nous, palpable, qu'à partir du moment où les conséquences de nos actions, de nos technologies en particulier, nous reviennent dessus par effet boomerang. On peut penser aussi bien sûr au concept de modernisation réflexive d'Ulrich Beck ici. Émile Hage souligne d'ailleurs que l'image du globe qui a accompagné toute l'histoire de la cosmologie occidentale, celle qui précède les vols Apollo, traduit bien le monde des gens sans monde. Le monde des gens sans monde, que sont les modernes. Un monde tenu à distance, littéralement dans notre main, image suprême de l'hubris, peut-on se demander. Image suprême de la démesure. Monde sphérique qui figure le rêve d'une connaissance totale et anhistorique de toute chose et que nous voyons aujourd'hui pour ce qu'il est, c'est-à-dire un monde qu'il nous faut repeupler de la multitude des attachements et des êtres qui le composent pour pouvoir l'habiter dans un futur acceptable. Il semble désormais que ce qui nous arrive, ce retour sur Terre, porte un nom, celui de Gaïa. Gaïa est celle qui fait intrusion dans une histoire que les descendants de... Je cite ici Isabelle Stengers. Gaïa est celle qui fait intrusion dans une histoire que les descendants de la révolution industrielle avaient racontée comme celle de l'émancipation humaine, se libérant des contraintes de la nature. Il ne s'agit donc pas d'un autre nom pour la Terre, et elle ne doit donc pas non plus être confondue avec la Terre nourricière que n'ont tant de peuples, ou avec la mer, dont certains demandent que ses droits soient reconnus. Fin de citation. Gaïa est donc une mère indifférente, puissante, violente, chatouilleuse, avec qui il nous faut désormais composer. Latour propose de distinguer les humains, qui désigneraient désormais ceux qui continuent à vivre sur cette planète comme s'ils en possédaient une ou plusieurs autres ou se réfugiaient une fois celle-ci épuisée, des terriens, qui auraient la volonté de créer de nouveaux rapports avec les êtres qui peuplent notre planète, de nouveaux attachements prônés par différentes variantes de l'écologie ou de l'environnementalisme contemporain. Je résumerai donc pour conclure cette proposition en disant que, désormais devenus terriens, nous avons la tâche de climatiser la Terre. Une question cruciale consiste à nous demander quelle place les techniques peuvent occuper face à cette nouvelle responsabilité.
Cette fois-ci, on y est. Ça n'a pas été facile. C'est pour moi un grand soulagement. La Terre, Gaïa, ses problèmes, ses mesures, ses limites, son insistance à se faire reconnaître comme partenaire, tout cela est derrière. Enfin. Mon ami Diamandis n'a pas tort. La Terre est un caillou stupide. Depuis que je suis dans le vaisseau du groupe Vaudois de philosophie, à Aurora Nunius, ou Nouvelle Aurore, de la classe Orion, je me sens pousser des ailes. Et puis l'idée de me balader sur un astéroïde me ravit. Peter Bourne, quelle aventure! Dépendant entièrement de la technique, je fais pour la première fois de ma vie l'expérience véritable de l'immanence. Ce que veut dire l'être ensemble de quelqu'un avec quelqu'un et de quelque chose dans quelque chose de commun. Plus intimement encore, je comprends que la prise de parti en faveur des choses ne peut devenir intelligente que lorsqu'elle s'engage dans la construction de capsules spatiales. Je me souviens de ce que disait Peter Sloterdijk. Le vol spatial est le produit de la multiplication de la précision par la légèreté d'esprit. La construction d'une capsule dans le cosmos est véritablement une affaire de condamnée à la précision. Il n'y a en elle aucune possibilité de se reposer sur des suppositions implicites. La seule chose qui fonctionne dans le vide, c'est ce que l'on comprend dans ses moindres détails. Alors vous allez me demander pourquoi s'intéresser aux astéroïdes et aux vols spatiaux en général. Eh bien, pour deux raisons. D'abord, il faut remercier les écolos. C'est grâce à eux qu'on ne conçoit plus la nature comme une sorte de terrain de jeu dans lequel nous étions invités à batifoler, mais comme un système de préservation de la vie. Or, pour comprendre un système de préservation de la vie, il faut sortir du système et le regarder de l'extérieur, avec la conséquence importante de mettre fin à la coopération du familier avec le régime de la technique. Le vol spatial brise notre naïveté à l'égard de la condition humaine, parce que ses modes de fabrication, radicalement excentriques par rapport à notre expérience de la coexistence des hommes avec leurs semblables et les autres, le force à adopter une ligne inexorable dans l'énonciation des moindres détails de la machine à immanence. Le vide exige que l'on épelle explicitement l'alphabet dans lequel l'implicite a été rédigé. De ce point de vue, le vol spatial équivaut à une alphabétisation ontologique. Ensuite, parce qu'il faut le dire, que cela fait longtemps qu'on tergiverse en bas sur les solutions à apporter à l'épuisement des ressources terrestres. Que les sotériens, les adeptes de Soteria, déesses grecques de la prudence et de la précaution, traquent en permanence en épluchant toutes les données climatiques et autres. Ils ont raison d'ailleurs, rien ne va plus. En revanche, après avoir crié au loup, que font-ils? Bof, pas grand-chose. À part avoir excédé Paul Crutzen, prix Nobel et inventeur du néologisme anthropocène, et l'avoir poussé à sortir de sa réserve naturelle en publiant un article qui recommandait d'envoyer du soufre ou certains dérivés soufrés dans la stratosphère pour produire massivement des aérosols qui limiteraient l'éclairement en surface de la Terre. Paul Crutzen, sotérien lui-même, venait de propulser sur le devant de la scène écologique un mouvement jusque-là relativement confidentiel du nom de géo-ingénierie, qui se définit par la manipulation délibérée du climat terrestre pour contrecarrer les effets de réchauffement climatique dus à l'émission de gaz à effet de serre. Deux faits se sont donc penchés sur le berceau de la géo-ingénierie. La première s'appelait « On fait quoi maintenant ?» que les perspectives de l'extension de notre séjour sur Terre s'annoncent terriblement et rapidement compromises, et que les solutions institutionnelles s'enlisent dans des compromis mous et des politiques d'autruche, celles-là bien chez nous. La seconde s'appelait « Comment faire ?». Elle avait comme devise « Nous ne comprenons que ce que nous fabriquons nous-mêmes ». « Comment faire ?» est la fée de la fabrication technique, qui est essentiellement un remplacement ou une pose de prothèse. Elle est philosophe aussi, et pour elle, le déploiement de prothèses, élément central du processus d'explicitation du monde et de ses habitants, est la phénoménologie de l'esprit réel. Pour elle, la répétition de la vie dans un autre endroit montrerait quelle proportion de la vie sous sa première forme avait été comprise. Alain gesticule. Il pointe le hublot du doigt. Nous nous approchons avec David et voyons un vieux Arkid 100, le premier télescope géostationnaire privé dans l'espace, manufacturé par la société de Peter Diamandis et de son partenaire Eric Anderson, Planetary Resources. C'était le premier vaisseau d'exploration low cost, capable de filmer d'une manière extrêmement fine les confins de l'espace et de repérer les astéroïdes. La version 200 lui ajoutera la mobilité, la version 300, les capacités nécessaires pour déterminer leur position exacte, leur composition, la facilité d'accès à leurs ressources. Au 9 décembre 2011, d'après la NASA, et ceci sera confirmé par Hughes, on dénombre environ 575 000 astéroïdes. La plupart sont autour de Mars et de Jupiter, d'où l'extrême importance de la mission de Curiosity. D'après Hughes, qui, en tant que sotérien dans l'espace, a revu les estimations de Planetary Resources, il y en aurait 9 000 dans le voisinage de la Terre, dont 1 000 ou 1 500 facilement atteignables. Contrairement à ce que l'on dit, mais on dit souvent n'importe quoi, la première ressource recherchée dans l'espace ne sera pas les métaux lourds et les terres rares, mais l'eau. En effet, un accès à l'eau permet l'hydratation, un air respirable, une protection contre les radiations, voire des capacités manufacturières. Les éléments de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène, peuvent être aussi utilisés pour fabriquer des carburants. Cela tombe bien, car il existe plusieurs groupes d'astéroïdes appelés chondrites carbonées, notamment les groupes CM et CI, qui peuvent contenir entre 3 et 22% d'eau, ainsi que des composés organiques. Ils sont, en outre, composés principalement de silicates, d'oxydes et de sulfites. La première raison d'arizonner des astéroïdes sera donc d'installer des stations de ravitaillement et des rampes de lancement pour les excursions spatiales successives à moindre coût. Car le but premier, tant pour Alain que pour Charles Bolden, le patron de la NASA, est bel et bien de mettre le pied sur Mars. Bien entendu, les astéroïdes regorgent de métaux lourds et de terres rares indispensables à l'industrie électronique. En bonus, ils sont présents sur leur surface, donc facilement minables. La valeur commerciale d'un kilomètre cube d'astéroïdes hors frais d'exploitation est estimée à 5 000 milliards d'euros, ce qui irrite Hugues passablement. Mais comment arraisonner un astéroïde? Il y a deux moments, la capture et la mise en orbite. C'est ici qu'intervient Deep Space Industries et le groupe Vaudois de philosophie, et par conséquent, ma mission. D'abord, on ne s'intéressera qu'au NEA, aux Near Earth Asteroids, aux astéroïdes qui passeront près de la Terre, les mêmes que la NASA a catalogués comme potentiellement dangereux pour la Terre. Pourquoi ? Parce que dans de bonnes conditions, elles sont plus facilement atteignables que la Lune, dixit beat. Comme ces astéroïdes passent à côté de la Terre rapidement, la solution mise au point par Beat et David consistera à les attraper et à les mettre en orbite, soit près de la Terre, soit près de la Lune. Pour des raisons de sécurité, nous ne nous intéresserons qu'aux astéroïdes de 7 à 10 mètres de diamètre, avec un poids maximal de 500 tonnes, circulant dans le voisinage de la Terre, comme je l'ai dit. Assez petits donc pour qu'en cas de ratage, et s'ils devaient se diriger vers la Terre, ils se volatiliseraient à leur entrée dans l'atmosphère et assez proches pour permettre leur exploitation. C'est Michel et Gabriel, d'anciens heideggeriens désabusés, qui ont mis la technique au point. La voici. On capturera les astéroïdes grâce à un gigantesque ballon gonflable attaché à un ARS pour Asteroid Retrieval Spacecraft ou vaisseau de récupération d'astéroïdes, qui sera manœuvré avec une technologie de propulsion électrique de type SEP, Solar Electric Propulsion. Une fois dans le sac, l'engin spatial, entièrement robotisé, Gabriel avait insisté sur ce point-là, emmènera l'astéroïde dans le voisinage de la Lune où il sera mis en orbite. Pour cette dernière opération, l'ARS utilisera deux petits moteurs, le REA ou Hydrazine Fuel Reaction Engine Assemblies, et plus tard le HCT ou Xenon Fueled Hall Current Thrusters. L'ARS sera muni d'une station d'accueil de telle façon que Aurora Nuncius ou tout engin de la classe Orion puisse s'y arrimer. Michel, Hugues, Alain, David, Béat et moi pourront alors effectuer une courte sortie extravéhiculaire et parvenir jusqu'à la surface de l'astéroïde pour enlever le dispositif de capture. Et le tour sera joué. Bon, je vois déjà quelqu'un nous demander comment gérer le spin des astéroïdes, c'est-à-dire leur rotation. Je me permettrai ici donc de citer Alain. L'élément principal sera le torque fourni par les panneaux solaires du vaisseau de capture. Alain estime que le modèle actuel serait capable de dérotationner un astéroïde de 5 tonnes, c'est-à-dire 10 fois plus volumineux que ce que nous allons chercher, avec un taux de rotation de 1 RPM à 0 en moins de 6 jours, en utilisant moins de 12 g de xénon et moins de 70 kg d'hydrazine. Si vous avez d'autres questions, nous nous ferons une joie de vous répondre.
Alors, des questions techniques, des questions métaphysiques. Des
moi, j'ai une révolution.
Michel Vanni.
Je veux bien commencer, ouais.
Non, moi, ça m'a frappé par rapport à l'exposé d'Alain, par rapport à Gaïa, donc. Hein. Toujours cette question qui m'a qui a travaillé pas mal de choses qu'on a dites là. C'est la question du sacré. On n'en a pas tellement parlé cette saison, je trouve. Et, ben, moi, dans ce que j'essayais de dire, il y a bien cette question que je posais. Vraiment, cette question, est-ce qu'on peut imaginer un attachement ou réattacher, retour à la terre, sans remettre du sacré, quelque part, dans la terre, dans les êtres auxquels on devrait porter du respect, hein, vraiment dans l'idée, c'est la science qui nous aurait vidé, en quelque sorte, toute forme de respect, d'attention des choses. Alors, il faut retrouver Dieu, parce que Gaïa, moi, j'entends une divinité.
Oui, bon, disons, tel que définit Stengers, Gaïa, c'est une forme de transcendance, mais laïque. Après, c'est vrai que elle met en contraste, comme d'autres, d'ailleurs d'autres auteurs, le rapport qu'ont les sociétés traditionnelles, ou encore certaines sociétés contemporaines, avec la nature et ses attachements par rapport à la société occidentale, en insistant sur le fait que, par exemple, l'anthropos de l'anthropocène, c'est l'anthropos occidental. Il y a une forme d'anthropocentrisme dans Anthropocène, ou d'ethnocentrisme plutôt, lié au fait que Anthropocène vaut pour l'Occident qui, à partir du XVIIIe siècle, enclenche la révolution industrielle. Mais effectivement, je pense qu'il y a la place pour les deux types de transcendance, laïque ou non laïque, dans la mesure où il s'agit toujours de plaidoyer pluraliste en termes philosophiques, en termes de valeurs. Donc il n'y a pas de volonté de refermer.
Je m'excuse, mais transcendance laïque, ça me paraît comme une contradiction dans les... En mon... Mais je veux pas.
Oh, venez, n'hésitez pas à venir nous chercher, nous sortir de notre vaisseau. On a voulu ces interventions comme ouvrant déjà des lignes de tension. Donc, engouffrez-vous joyeusement.
Je demande...
Parle fort.
Gros mot, vieux. Non, mais c'est par rapport en fait, à la question de la relation forte. Qui était cité à un moment donné. C'est vrai que vous avez évoqué Peter sur Pondac. J'ai le bonheur de les trouver récemment, parce que j'ai commencé à lire sur le but.
C'est le moment.
Enfin. Donc c'est vrai que j'étais frappé quand même par le fait que Sloterdijk, qui justement a soupçonné Sloterdijk d'être vraiment religieux, mais dit d'une part que pour appréhender certains concepts, il faut justement peut-être se libérer de certains réflexes anti-religieux. Parce que précisément la théologie a pu développer des concepts extrêmement riches et importants pour la philosophie. En particulier la question de la Trinité, qui est quelque chose d'assez monstrueux, mais qui pour lui est emblématique en fait, de ce qu'il appelle la co-subjectivité. Et je trouve cette idée extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué si long avec Thomas Arnouet, mais le fait que précisément un sujet soit d'emblée en relation, soit fondamentalement en relation, c'est-à-dire à la fois émetteur, récepteur, et que peut-être le nom de Dieu, il est Dieu, peut-être désigne précisément cette forme de co-subjectivité. Alors je ne sais pas si ça réintroduit le sacré, c'est effectivement par rapport à la question que vous posez, Michel, c'est parce que la question. En tout cas, c'est peut-être la possibilité de se dire qu'en soi, on a de l'étranger. Une dimension qui est effectivement tout à fait autre, qu'on ne soupçonne pas, et qui, pour le coup, ferait que l'hubris, comme vous l'évoquiez, le fait qu'on transgresse tout d'un coup la technique, je ne sais pas quelle limite peut-être imaginaire, eh bien, on se dit, bah, finalement, oui, il faut tenir compte, et il faut être peut-être, pour le coup, comment ça s'appelle cette limite négrette, les sotériens ?
Sotériens, oui.
Donc, être un peu, effectivement, à l'époque des sotériens.
Mais moi, pour faire juste le lien et passer la balle à Michel, mais j'ai l'impression que chez Sloterdijk, il lit tous ces grands récits religieux justement comme un peu des véhicules ou des dispositifs qui ont permis de faire exister cette étrangeté en soi et cette relation. Et l'enjeu, ça devient aussi avec tout courant constructiviste, écologiste qui se construit autour d'Emilia Hache, Isabelle Stenger, c'est ça. Mais d'autres, c'est comment faire ? Est-ce qu'on a encore besoin de cette enveloppe-là, ou est-ce qu'on ne peut pas en avoir d'autres ?
Bon, moi, par ailleurs, je ne pensais pas qu'il s'agisse de... Ce que j'essayais d'évoquer avec mon histoire freudienne de maman et de fétiche, c'est qu'en fait, il ne s'agirait pas de réintroduire du sacré, mais qu'en fait, secrètement, on y serait toujours. Mais d'une manière d'autant plus méchante et cruelle qu'elle a été refoulée et qu'elle nous revient par nos attachements les plus ludiques.
Pour savoir si on veut garder cette enveloppe, je vais peut-être faire quelques distinctions. Par exemple, par rapport à la transcendance, est-ce que ce que nous appelons sacré nécessite la transcendance, ou est-ce qu'il existe une forme de sacré païen dans la permanence? Par exemple, ça.
Oui, effectivement, enfin,
là, je pense que de la ligue. C'est des notions qui n'existent que par rapport à l'autorité de la laïque, une forme de pensée laïque, une pensée qui se pose a priori à une forme de pensée religieuse. De même, le sacré est la définition par les scientifiques dans l'espace donné, dans la projection, lors de autrui et informé par une culture qui est essentiellement chrétienne. Essentiellement chrétien, qui postule une transcendance. Quand nous pensons à ce que nous essayons d'appeler religieuse.
Oui.
Excusez-moi, penser par rapport à cet héritage chrétien, c'est ce que dit souvent M. Thorndike, j'ai assez en mémoire ce qu'il nous dit toujours, c'est que précisément, je pense qu'il y a un croisement entre une tradition chrétienne et une platonicienne. Le fait que les problèmes de transcendance et de permanence sont généralement. Excusez-moi, c'était des termes de plus. Je profite des philosophes de l'esprit. Ils sont généralement réduits et expliqués en termes de substance. Et cette approche du réel, à travers les substances, qui fait que dès qu'il y a unité, c'est forcément fusion. Dès qu'il y a deux, c'est forcément impossibilité de relation, parce que forcément les individus sont tellement atomisés qu'on ne peut pas finalement se retrouver. Bah, finalement, c'est cette interprétation substantielle.
Oui, disons, en tout cas, on n'évite pas de refaire, on voit bien dans les questions là, de refaire quelque chose qu'on fait tout le temps finalement, en tout cas dans nos cénacles philosophiques, c'est la généalogie de la modernité, où il y a bien des étapes, il y a une étape Platon, une étape monothéisme, jusqu'à la science, etc. Et on voit toujours cette espèce de confrontation quand on confronte à d'autres types de d'ontologie, ce que les ethnologues font bien aujourd'hui, où on voit justement qu'on ne fonctionne pas avec ces catégories-là et qu'on est avant, si on peut dire ça comme ça, mais ça c'est encore une manière occidentale de le faire, avant Platon ou ailleurs que Platon. Mais en faisant ça, on est toujours en train de nous faire notre récit, de faire une histoire. Il y avait Florence, je crois, qui était.
Oui, moi je me demande si la définition technoscientifique de la technique n'est pas cette interprétrice, parce que la fin technique nous a permis de nous séparer justement de cet attachement à la Terre, dans cette langage. Je me demande s'il ne faudrait pas aller plutôt vers une philosophie du langage, puisque c'est ce qui nous permet de pousser ce qui n'est pas, le non-être, d'advenir ce qui va être, ce qui peut être le possible, toute la notion de modalité au sein du langage. Et est-ce que ce n'est pas plutôt vers une philosophie qui prend en compte ces éléments-là, plutôt vers une ontologie qui nous rattache de nouveau à l'air et à tout cet engourbement?
Je n'ai pas compris, je ne suis pas sûr d'avoir compris la manière dont tu as fait tes sauts. Définition technique.
C'est que la technoscience et la technologie. Pour moi, le langage, c'est une technique. C'est une technique.
Voilà, bon, on est d'accord.
Et c'est la première technologie qui nous a permis de sortir de guerre, en écrivant des textes, en inventant des histoires, en inventant des mythes,
des dieux,
d'autres choses, en inventant des choses. Pourquoi penser que la technique est uniquement technoscientifique?
Je pense qu'on ne le pense pas. En fond, un gars comme Peter Sloterdijk ne le pense pas. Il pense en termes de système immunitaire. Donc il dit une religion, c'est un système immunitaire de type symbolique. Le langage fait partie de cette, de cette immunisation qu'on a pour comprendre la vie, pour comprendre la mort, pour comprendre la, la contingence. On a, le langage sert à ça, sert à nous immuniser contre des émotions ou des affectations ou des sensations qui seraient dévastatrices. Donc la, le langage fait partie de la technologie, est une technologie, d'ailleurs très, très puissante, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment je veux dire, d'opposition entre le langage et d'autres technologies. Elles rentrent dans des fabrications de systèmes immunitaires. Et moi, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux faire du langage, tu as les premiers dessins sur les cavernes, ensuite tu as les premiers textes hiéroglyphiques, et après tu as le langage qu'on parle, le français, l'anglais, etc. Puis maintenant tu as le code, okay, qui est la traduction de mots et de phrases en 1 et 0, ou en 4 lettres, pour déterminer ton système génétique. Et ça, c'est aujourd'hui la, la phase dans, du langage dans lequel on est, c'est celle qui réduit, si tu veux, ou qui ramène tout ça à l'expression des codes. Parce que les codes, tu peux les manipuler. Et c'est là où on retrouve la technique, la, la technique technicienne, si tu veux, en, géo, en, en biologie ou en géo, géo-ingénierie ou en physique. Ou en, voilà.
Oui, mais le langage est quand même premier, il est préalable à cette création.
Bah, il fait partie d'une évolution, si tu veux, il fait partie d'une évolution d'un système immunitaire qui s'est développé à partir de cri, si j'imagine.
Oui, mais qui n'a pas détruit les formes de langage qui continuent de persister. On a l'impression, dans le vision de la technique, qu'il n'y a plus que cette façon-là de voir la technique qui existe encore.
Ah non.
Ça m'a dérangé quand vous êtes exposé. Je ne parlais pas du tout de Soterlac, parce que on a l'impression que c'est la seule technique dont on peut s'en parler aujourd'hui.
Non, moi, moi je crois que je, j'ai cité une phrase de Stotterdijk qui à mon avis reprend bien ce qu'il dit comme, comme base, si tu veux, comme, comme base spatiale sur laquelle on pourrait, à partir de laquelle on pourrait s'envoler. C'est on ne comprend que ce que l'on fait. Voilà. À partir de là, tout ce que l'on ne fait pas, on ne comprend pas. Ce qui pose un problème d'ailleurs à mon avis à, aux adeptes de Gaïa, puisque ils ont bien une appréhension de ce qui se passe, mais là, en termes de compréhension, ils doivent garder le mélange entre l'explicite et l'implicite. Or, nous, les techno-prométhéens, on se dit que dans l'espace, on est obligé de tout comprendre. Voilà. Et à ce moment-là, c'est cette difficulté qui fait que on peut... on peut sortir, à mon avis, de ce que tu viens de mentionner, qui est ce sempiternel retour à Dieu, à le, à, au sacré. Voilà.
Je crois
que
c'est parce qu'on comprend, c'est
pas
parce qu'on fait qu'on comprend, c'est clair là. Si on veut envoyer un quelque chose dans l'espace, il faut répondre avant de faire ça. Ça va jamais fonctionner si on ne réfléchit pas, si on n'a pas le langage qui est préalable pour faire. C'est ça qui me fâche. À mon avis, c'est des choses qui vont dans l'autre sens.
Mais le langage, c'est 1, 0.
Ah, il n'y a rien de plus qu'une bonne provocation pour faire.
Avec le 1,
0. Tu veux réagir deux secondes ou...
Non, bon, c'est une question de l'aplatissement des codes, enfin, la réduction au code numérique, qui est une tentation très grande depuis. Depuis les années 50, avec l'invention de la cybernétique, l'invention de la biologie moléculaire, ensuite la génomique aujourd'hui, etc. C'est une vision qui, à mon avis, bon, elle est très vendeuse, mais elle néglige complètement les processus d'émergence et elle néglige complètement le fait que, bah, c'est trivial ce que je dis, mais qu'entre la notion de psyché, de psychisme, la notion de cerveau, la notion de réseau neuronal, la notion de code génétique, il n'y a pas de continuité. Il n'y a aucune continuité, même si on peut voir des gens ici extrêmement réputés que je n'ai pas cités de mon université dire des âneries du genre quand on aura compris le code génétique des cellules cérébrales, on aura compris la pensée et compris, on pourra traiter des patients psychiatriques, ce genre de monstruosités qui sont très répandues mais qui sont liées alors à une en fait à un rapport à la technique qui a tendance à, une épistémologie qui a tendance à se détacher d'un rapport à la science moderne telle qu'elle émerge, disons, au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, une preuve par le concept, au sens des ingénieurs, une preuve par le faire, une preuve par la, qui tolère une certaine perte de maîtrise sur les systèmes, d'ailleurs, c'est-à-dire que, à la limite, c'est pas très important qu'on comprenne pas tout. pas très important qu'on puisse pas intégrer les différents niveaux d'organisation, l'émergence. Ce qui compte, c'est qu'on ait un composé, un module qui fonctionne. Et ça, c'est un mode de pensée quand même qui, en tout cas en biologie, parce que c'est là où c'est le plus fort, dans les sciences de la vie, est très récent. Quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a encore 10 ans. C'est-à-dire, c'est le anything goes, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de notion d'esthétique de la théorie ou de l'épistémologie telle qu'on a pu la trouver pendant très longtemps dans l'histoire des sciences. C'est, il faut fabriquer un truc qui accomplit la fonction qu'on lui désigne, c'est tout. Et c'est déjà une réussite. Et ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'épistémologie classique telle qu'elle émerge, telle que se développe jusqu'au milieu du XXe siècle.
Et ça, c'est le vaisseau spatial. C'est-à-dire qu'il faut on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne vraiment la gravité, les pressions, les trucs, qu'est-ce qui se passe exactement, d'aller faire des échantillons sur la Lune avant d'y aller. Mais il faut que ça marche, il faut revenir. Et moi, ce que je me demande, c'est sur cette preuve de concept, donc cette manière de tirer en avant toute la recherche, innovation, tant en biologie que dans beaucoup de domaines des technosciences, qu'est-ce qu'on fait de l'échec? Et il me semble que l'échec, on le passe au silence. Pour la NASA, l'échec n'est pas une option. Hein. C'est la devise « failure is not an option ». Pourquoi? Parce qu'il y a des types, il faut les ramener. On ne va pas les laisser griller dans l'espace. Apollo 13... Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet échec? Comment faire intégrer l'échec dans notre pensée technique élargie? C'est vraiment une question que je pose, parce que l'échec a une beauté, l'appareil. C'est de la tour aussi assez classique, c'est-à-dire on se rend compte de notre relation forte, pour ne pas dire, enfin j'ai pas dit dépendance, avec un objet à partir du moment où il tombe en panne, par exemple. Et la panne, c'est techniquement, technologiquement, c'est quelque chose de très beau, en fait. C'est chiant, mais c'est très beau. Jean-Michel.
Le projet spatial, c'est le retour à revenir. Ça marche. Sinon, il faut être capable de revenir à ne rien.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Oui. Le lycée,
c'est... Il y aura une pensée de l'espace quand on ne recevra plus les messages de la Terre, quand on ne sera plus lié au centre de contrôle de Houston. Quand on décidera nous-mêmes de ce qu'on fera et de comment on le fera. Tu sais, aujourd'hui, les cosmonautes reçoivent leur communication depuis la Terre. Donc ils pensent comme des terriens. On reste terriens en altitude. Là où ça deviendra vraiment rigolo, c'est quand ce lien sera sevré.
Moi, j'ai quand même un problème avec le préalable. Avec le j'ai peut-être mal compris, mais je pense que ce soit ça que tu as dit ou pas, je pense que c'est un truc intéressant.